Classe et idées dominantes. À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle. Si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression en idées des conditions matérielles dominantes. Ce sont ces conditions conçues comme idées, donc l'expression des rapports sociaux qui font justement d'une seule classe la classe dominante, donc les idées de sa suprématie. Les individus qui composent la classe dominante ont, entre autres choses, une conscience aussi. Et c'est pourquoi ils pensent. Il va de soi que, dans la mesure où ils dominent en tant que classe, et déterminent une époque dans tout son champ, ils le font en tous les domaines. Donc, qu'ils dominent, entre autres choses, comme penseurs aussi, comme producteurs de pensées. Bref, qu'ils règlent la production et la distribution des idées de leur temps, si bien que leurs idées sont les idées dominantes de l'époque. À un moment, par exemple, et dans un pays où la puissance royale, l'aristocratie et la bourgeoisie se disputent la suprématie, et où, par conséquent, le pouvoir est partagé, la pensée dominante se manifeste dans la doctrine de la séparation des pouvoirs, que l'on proclame alors « loi éternelle », entre guillemets. Or, la division du travail, dans laquelle nous avons déjà reconnu l'un des facteurs les plus importants de l'histoire, prend aussi dans la classe dominante la forme de la division du travail intellectuel et du travail matériel. De sorte que, à l'intérieur de cette classe, l'une des parties présente ses penseurs attirés, c'est-à-dire les idéologues actifs et conceptifs, dont le principal gagne-pain consiste à entretenir l'illusion que cette classe nourrit à son propre sujet. Tandis que l'autre partie garde vis-à-vis de ses idées et de ses illusions une attitude plutôt passive et réceptive. Ce sont en réalité les membres actifs de cette classe, et ils ont moins de loisirs pour se faire des illusions et des idées sur eux-mêmes. Cette division peut même dégénérer au sein de cette classe en un certain antagonisme, une certaine rivalité entre les deux parties. Toutefois, cette opposition disparaît automatiquement dès qu'un conflit pratique met en danger la classe elle-même. On voit alors disparaître l'illusion que les idées dominantes ne seraient pas les idées des classes dominantes, et qu'elles auraient une puissance indépendante du pouvoir de cette classe. L'existence d'idées révolutionnaires à une époque déterminée suppose l'existence préalable d'une classe révolutionnaire, problème dont nous avons déjà dit plus haut l'essentiel. Si l'on détache, en observant le déroulement de l'histoire, les idées dominantes de la classe dominante elle-même, si on les rend indépendantes, si l'on se persuade qu'à telle époque, telle ou telle pensée ont prévalu, sans se préoccuper des conditions de production ni des producteurs de ces pensées, bref, si on fait table rase des individus et des circonstances mondiales qui sont à la base de ces pensées, on peut dire, par exemple, qu'au temps où l'aristocratie régnait, c'était les idées d'honneur, de fidélité, etc., qui prédominaient, tandis que sous le règne de la bourgeoisie, c'était les idées de liberté, d'égalité, etc. Voilà ce que la classe dominante elle-même se figure le plus souvent. Cette conception commune à tous les historiens, surtout depuis le XVIIIe siècle, aura nécessairement à affronter le phénomène que voici. Ce sont des pensées de plus en plus abstraites qui prévalent, c'est-à-dire des pensées qui revêtent de plus en plus la forme de l'universalité. En effet, toute nouvelle classe qui prend la place d'une classe précédemment dominante est obligée, ne serait-ce que pour parvenir à ses fins, de présenter ses intérêts comme l'intérêt commun de tous les membres de la société. C'est-à-dire, pour parler idée, de prêter à ses pensées la forme de l'universalité, de les proclamer les seuls raisonnables, les seuls qui aient une valeur universelle. Du fait même qu'elles affrontent une autre classe, la classe révolutionnaire ne se présente pas comme telle, mais comme porte-parole de l'ensemble de la société. elle apparaît comme la masse totale de la société, en face de l'unique classe dominante. Note de bas de page. L'universalité correspond, premièrement, à la classe contre l'ordre. Deuxièmement, à la concurrence, au commerce mondial, etc. Troisièmement, à l'importante force numérique de la classe dominante. Quatrièmement, à l'illusion des intérêts communs, illusion initialement vraie. Cinquièmement, aux illusions que se font les idéologues et à la division du travail. Fin de la note de bas de page. Elle peut le faire parce que son intérêt, au début, est en fait encore plus lié à l'intérêt commun de toutes les autres classes non dominantes. Et parce qu'il n'a pas encore pu, sous la pression des circonstances héritées du passé, se développer comme intérêt particulier d'une classe particulière. Aussi, son triomphe profite-t-il à nombre d'individus des classes exclues du pouvoir, mais seulement dans la mesure où il leur permet de s'élever et d'entrer dans la classe dominante. En renversant le règne de l'aristocratie, la bourgeoisie française permit à beaucoup de prolétaires de s'élever au-dessus du prolétariat. Mais il leur fallait devenir des bourgeois. C'est pourquoi chaque nouvelle classe ne peut établir sa domination que sur une base plus large que celle de la classe qui dominait précédemment. Alors que, plus tard, se développe, de plus en plus aiguë et de plus en plus profonde, l'opposition de la classe non dominante à la classe désormais dominante. En raison de ces deux phénomènes, le combat à mener contre cette nouvelle classe dominante tend lui aussi à nier les conditions sociales existantes, de façon plus décisive et plus radicale que ne pouvaient le faire jusqu'ici toutes les classes avides de domination. Toute cette illusion que la suprématie d'une certaine classe est seulement la suprématie de certaines idées s'évanouit naturellement dès que la domination d'une classe déterminée cesse définitivement d'être la forme de l'ordre social. Donc, dès qu'il n'est plus nécessaire de présenter un intérêt particulier comme étant l'intérêt général, ou de présenter le général comme dominant. Une fois que l'on a séparé les pensées dominantes des individus détenteurs du pouvoir, et surtout des conditions sociales qui résultent d'un niveau donné du mode de production, donc, une fois que l'on s'est persuadé que ce sont les pensées qui dominent toujours dans l'histoire, il est très facile d'abstraire de ces différentes pensées la pensée, entre guillemets, l'idée, etc., pour en faire le moteur de l'histoire, et de concevoir ainsi toutes ces diverses pensées et concepts comme des déterminations de par soi, entre guillemets, du concept qui se déploie dans l'histoire. Il est alors naturel que toutes les relations humaines puissent être dérivées du concept de l'homme représenté, de l'essence de l'homme avec un grand H. Voilà ce qu'a fait la philosophie spéculative. À la fin de la philosophie de l'histoire, Hegel reconnaît lui-même qu'il a, entre guillemets, considéré uniquement la progression du concept, et qu'il a présenté dans l'histoire la théodicée véridique. On peut alors revenir au producteur du concept, entre guillemets, au théoricien, idéologue et philosophe, pour en conclure que, de tout temps, les philosophes, les penseurs comme tels, ont dominé dans l'histoire. Conclusion qui, on l'a vu, fut déjà énoncée par Hegel. Ainsi, tout le tour d'adresse par lequel on démontre la souveraineté de l'esprit dans l'histoire se réduit aux trois efforts que voici. Numéro 1. Les idées de ceux qui, pour des raisons empiriques, dans des conditions empiriques et en tant qu'individus physiques, sont les maîtres, ces idées, il faut les séparer de ces maîtres et, par conséquent, reconnaître la suprématie des idées ou des illusions dans l'histoire. Numéro 2. Il faut établir un certain ordre dans ce règne des idées. Révéler un rapport mystique entre les idées dominantes qui se succèdent. Pour y parvenir, il faut les concevoir comme des, entre guillemets, déterminations du concept de par soi. Fermez les guillemets. Ce qui, en fait, est possible par la raison que ces pensées sont réellement liées entre elles par le moyen de leur base empirique. Et que, conçues comme pure pensée, elles deviennent des distinctions par soi, des distinctions opérées par la pensée. Numéro 3, pour débarrasser de son aspect mystique, ce concept se déterminant lui-même, on le transforme en une personne, la conscience de soi, entre guillemets. Ou, pour se donner des airs franchement matérialistes, en une série de personnes qui représentent le concept, entre guillemets, dans l'histoire, lesquels sont les penseurs, les philosophes, les idéologues. Ceux-ci, à leur tour, sont considérés comme les fabricants de l'histoire, comme le conseil des gardiens, les dominateurs. Du même coup, on a éliminé de l'histoire tous les éléments matérialistes et l'on peut tranquillement lâcher la bride à son coursier spéculatif. Il convient d'analyser cette méthode historiographique et les raisons de sa prédominance en Allemagne, à partir de ce qui la rattache à l'illusion des idéologues en général. Par exemple, les illusions des juristes et des politiciens. Parmi eux, les hommes d'État en exercice. À partir de ce qui la rattache aux rêveries et aux divagations dogmatiques de ces gens-là. Elle s'explique tout simplement par leur vie et par leur situation pratique, par leurs activités et par la division du travail. Tandis que dans la vie quotidienne, tout épicier, tout boutiquier, sait fort bien distinguer entre ce qu'un individu prétend être et ce qu'il est en réalité, notre historiographie n'est pas encore parvenue à ce savoir banal. Elle croit sur parole tout ce que chaque époque affirme et s'imagine à son propre sujet.